Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis cette semaine. Félix Auger-Aliassime continue d'impressionner en ce début de saison. Une autre belle finale à Marseille. On va aussi regarder ce qui s'est passé dans certains autres tournois. Et grande nouvelle pour la ville de Granby qui va recevoir un tournoi de niveau WTA. On reçoit la mairesse de la ville, Julie Bourdon, et le directeur du tournoi, Richard Quirillon. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sur la ligne, cette émission de radio, l'émission officielle de l'Omnium à Banque Nationale, messieurs, et ce sera aussi l'émission officielle du championnat Banque Nationale de Granby, je vous le confirme, parce que bon, on a appris dans la dernière semaine que Granby allait recevoir un tournoi WTA, on va en parler amplement aujourd'hui. On reçoit, comme je l'ai dit en introduction, la mairesse et le directeur du tournoi, Richard Quirillon, mais d'abord, Nicolas Richard, c'est la dernière fois que je te le demande. Est-ce que tu survis à ton cycle olympique?
C'est maintenant terminé, ces Jeux olympiques. Maintenant, place au... Il reste encore de l'hiver, mais place au sport d'été, là, tranquillement. Bon, il y a de plus en plus de tennis, le golf, on va commencer à en reparler aussi. Non, là, l'hiver, c'est pratiquement terminé, quoi qu'avec la température d'aujourd'hui, un petit 1 degré, pas trop clair, avec bien de la slush, là, c'est très québécois comme température. Mais non, là, les Olympiques, ça a bien fini, puis là, plein feu sur les sports d'été qui arrivent de peu à peu.
L'extérieur ressemble à ton niveau d'énergie à la fin de ces Jeux,
oui, hein? Je me trompe. Très, très, très mollasse. Allons-y comme ça. Très mollasse.
Hugues Léger, garçon de l'Estrie. J'imagine que tu es très content de la nouvelle qui est sortie cette semaine et ça ajoute à ton bonheur.
Oui, je suis très content à plus d'un titre. Évidemment, tu sais que juste fan, on est fan tous les trois du Challenger de Granby depuis longtemps. Et voir le tournoi passer en WTA 250, c'est presque une récompense, mais presque naturelle. C'est très mérité. C'est une organisation qui est exceptionnelle depuis très longtemps. Un très beau central pour un Challenger et maintenant un WTA de 250. Donc, je suis vraiment content de cette nouvelle-là. Puis, c'est très mérité. Je suis surtout content du changement d'horaire et de date qui va nous placer juste avant l'US Open. Donc, ça risque d'attirer quelques joueuses qui sont encore en préparation avant le dernier grand chelem de la saison. Donc, c'est que du bonheur là, de voir ce qui se passe à NBA avec le tennis en ce moment.
Ouais, c'est vraiment une immense nouvelle. C'est pas banal d'accueillir un événement international du niveau WTA, qu'il soit 250, là, quand même, c'est phénoménal de pouvoir accueillir, surtout dans une petite ville comme Granby, quand on compare à d'autres villes dans le monde, là, où il y a Lyon ou Strasbourg, là, qui sont des villes un peu plus importantes. Enfin, on va en parler beaucoup plus avec nos invités, mais d'abord et avant tout, une autre semaine complètement spectaculaire pour Félix Auger-Aliassime. Nico, est-ce que tu as quand même réussi à regarder quelques échanges malgré que tu vis de nuit?
J'ai regardé une partie des reprises à RDS parce que malheureusement, aucun média canadien ne diffusait ce match-là à l'heure où c'était supposé être diffusé, c'est-à-dire 8h le matin. Donc, j'ai suivi ça en temps réel sur Google, ce match-là. J'ai regardé les séquences plus tard. Malheureusement, parce que, tu sais, c'est pas comme si on avait un Canadien qui était 9e mondial, un Québécois qui peut plus gagner un titre. Enfin.
Veux-tu te faire un commentaire éditorial, Nico? Là?
C'était mon commentaire éditorial. On revient à la phrase de base qui était de parler de Félix. Mais écoute, quel dénouement et quel début de saison extraordinaire pour les Québécois. On ne cesse d'en parler. Félix ne cesse de nous impressionner. Là, il s'est confronté à un Rublev qui, je pense, avait encore un petit peu le couteau entre les dents de son... Et un petit peu encore à travers la gorge de son parcours qui a mis fin, qui a été terminé abruptement à Rotterdam. Deux manches qui auraient pu tourner en faveur de Félix. Malheureusement, là, je pense qu'on avait un petit peu à quel point Rublev... Tu sais, il y a une petite coche encore entre Rublev et Félix. Une toute petite coche, mais quand même. Oui, évidemment qu'on aurait, puis on en reparlera, là, mais je pense, évidemment, tout le monde aurait voulu que Félix gagne, mais je pense que cette défaite-là en finale n'est pas plus mal non plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour Félix, il apprend, je pense pas que c'est une défaite dont il va il va capoter, là, je veux dire, dans la mesure où ça fait, il va tellement bien ces temps-ci que c'est une finale, certes, qu'il a perdu, mais il a quand même très bien joué tout au long de cette semaine-là. Je ne pense pas que c'est catastrophique, cette défaite-là. Au contraire, je pense que ça fait partie du processus. Là, on a su qu'il faisait l'impasse sur le prochain tournoi, qu'il allait être donc à Indian Wells. Et Indian Wells, Félix, reposé et en confiance, sera extrêmement dangereux.
Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même encore une petite coche avec Rublev, mais en même temps, c'était tellement serré comme match. Ça aurait pu aller quand même du côté de Félix. D'ailleurs, il avait commencé avec le bris. Il venait 2-0 ce match-là en partant. Et quand on regarde le match à Rotterdam également, ben, ça avait été un match très serré aussi, là. Ça n'avait pas été un walk in the park pour Félix. Et ça, ben, moi, ça me rassure parce que Rublev, on peut le dire, c'est un joueur établi quand même, là, parmi les meilleurs au monde. Alors, c'est une belle performance, n'est-ce pas, Hugues?
Oui, moi, ce qui m'impressionne de Félix, bon, on le dit, on sent qu'il y a eu un déclic depuis le début de l'année. Là, il est passé à un autre niveau. J'en parlais avec notre collègue Pierre Rinfret hier. On voit que dans ses yeux, c'est plus le même. C'est un homme. C'est plus un jeune homme qui perce le circuit, qui doute des fois. Et on voit dans ses yeux là, qu'il est là pour gagner, pour dominer. C'est un vrai guerrier maintenant. Donc, il est passé à un autre niveau. Et ce qui est beau à voir, c'est qu'il enchaîne les victoires. C'est surtout ça. Là, deux finales. Un titre, tout ça en deux semaines, c'est la preuve qu'il est établi ou qu'il s'établit maintenant sérieusement dans le top 10 et qu'il va continuer de progresser. Moi aussi, sa défaite d'hier, il a joué beaucoup de tennis depuis le début de l'année, peut-être un petit peu de fatigue. Rublev, tout un client aussi, qui voulait une revanche sur sa demi-finale, perdue contre Félix il y a une semaine à Rotterdam, comme tu le disais, Nico. Et ça va vraiment très, très bien pour Félix. Et il continue d'impressionner les gens aussi par sa qualité de jeu, comment il joue les gros points, les points vraiment importants. Il les joue vraiment bien, je trouve, les balles de bris et autres, mais aussi son fair play. On l'a vu contre Andy Murray il y a une semaine et on l'a vu encore en demi-finale contre Safiulin sur un point où il a dit « Tu devrais te challenger parce que je pense que la balle était bonne. » Écoute, c'est quelqu'un qui est en train de faire sa place à grande vitesse sur le circuit ATP.
Ben, je suis content que t'en parles parce que je voulais qu'on en parle de cette, j'allais dire incident, mais c'est tellement péjoratif de le dire comme ça. Mais quand il a vraiment pris le temps de regarder la balle sur la ligne et dire, d'après moi, tu devrais contester parce que je pense qu'elle est bonne, cette balle-là. Et tu sais, ça en dit long sur la classe de, et regarde, pas plus tard que l'autre semaine, on parlait de l'incident avec Andy Murray, la casquette, il a décidé de reprendre le point. Tu sais, pour vrai, une attitude comme ça, je pense que ça ne peut qu'être bon pour le sport. Puis j'ai l'impression que ça te revient aussi à
moyen terme. Je vais ajouter un truc. C'est un signe des grands champions aussi. Je pense tout de suite à Nadal et Federer qui ont fait des gestes comme ça aussi à quelques reprises qu'on a vues. Donc pour moi, c'est que ça s'inscrit dans la progression de Félix et dans la position qu'il commence à avoir et qu'il va avoir à long terme, je crois, sur le tennis mondial. Donc, c'est un signe de grand champion, ce côté gentleman, fair play. Même dans des matchs ultra serrés, là, c'était, écoute, un match 7-6 contre Safiulin. Donc, chaque point comptait. Et même sur un match extrêmement disputé comme ça, il est prêt à dire, écoute, la balle était bonne, challenge, puis s'il perd le point, ben tant pis. Donc, bravo, c'est vraiment beau à voir.
Rapidement, messieurs, est-ce que Félix Auger-Aliassime a le meilleur début de saison de l'ATP présentement?
Ben, comme je disais l'autre jour, il est le meilleur joueur de l'ATP depuis le début de la saison. C'est pas compliqué, puis je vais continuer de le dire. Il n'y a personne qui a des résultats aussi réguliers que lui. Et je pense que le switch qu'il y a eu, ou du moins la transition, du moins dans ma pensée à moi, dans mon esprit, tu sais, on a souvent parlé au cours de la dernière année à quel point Félix. Les matchs de premier tour, c'était pas acquis. On se disait souvent, Félix sera un joueur de l'élite lorsque les premiers tours sont des matchs acquis. Parce qu'avec Félix, il y a quelques mois, on se disait, bon, un premier tour difficile, on sait pas trop. Deuxième tour. Mais là, j'ai l'impression que Félix, à chaque tournoi, peut facilement se rendre dans un troisième match. C'était comme un petit peu le baromètre qu'on s'était fixé, les gars, rappelez-vous, il y a quelques mois. Et là, Félix, je pense qu'il a atteint ce niveau-là, ce statut-là de dire, les premiers matchs, ça va être pas de routine, bien sûr, parce que ça demeure les meilleurs joueurs de tennis au monde. Mais à qui? On peut miser, je pense qu'on va faire notre tableau, par exemple, pour Indian Wells. On sait que les deux, trois premiers matchs pour Félix, c'est pratiquement dans la poche et je pense que c'est une étape importante pour lui dans sa carrière.
Ben, son classement est un classement de quart de finale régulier en tournoi. Quand tu te retrouves parmi les huit derniers joueurs de ce tournoi-là, son classement mondial suggère que ça devrait être ça le standard. Moi, je pense quand même que Nadal connaît, bon, il est invaincu depuis le début de la saison, 2 titres, 2 tournois, mais quand même, si vous me dites que Félix, et je vais aller avec à toi, Hugues, rapidement, mais si vous me dites que Félix connaît le meilleur début de saison, je pense que ça se défend très bien avec la Coupe ATP, un titre et une autre finale, et rappelons-le qu'à Melbourne, il aurait pu battre Medvedev. Et là, ben...
Il y a une semaine, j'étais moins prêt que vous peut-être à affirmer qu'il est le meilleur joueur depuis le début de l'année, mais avec ce qu'il a fait à Marseille, je pense que là, en termes de volume, je peux confortablement dire que oui, il a peut-être le meilleur début de saison sur le circuit. Il gagne un tournoi en équipe. Il pousse le meilleur joueur mondial probablement en ce moment, qui est Medvedev. On parlera de la position numéro 1 qui pourra peut-être changer dès lundi prochain avec Medvedev. Il pousse à une balle de match, un match en 5-7. Il gagne un tournoi à Rotterdam, son premier titre, et il sera une deuxième semaine contribue. Donc, Félix est probablement le meilleur joueur du circuit en ce moment, oui.
Messieurs, on ne perdra pas beaucoup de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour faire le tour des tournois, parce qu'on a décidé de mettre l'accent un peu sur Granby, parce que c'est une grosse nouvelle pour nous localement. Mais je veux quand même qu'on parle d'Alcaraz parce que, bon, il continue de remplir les promesses qu'il nous a fait, lui, hein, Hugues?
Ah, wow. Écoute, encore une petite statistique. Il est le plus jeune joueur actif à avoir percé le top 20, incluant Federer, Nadal, Djokovic. Donc, pour vous dire à quel point il est rendu, superbe joueur. Donc, victoire à Rio contre Schwartzmann. Je vous parlais de Casper Ruud que je voyais comme un potentiel gagnant de Roland-Garros. Je pense que je vais ajouter Alcaraz à ma liste tout de suite. C'est un tournoi historiquement où il y a des jeunes qui sont couronnés. Je ne parle pas de la série de Nadal, évidemment, depuis 15 ans, mais on remonte un peu. Les Villander, Chang, Kuerten ont tous percé avant 20 ans Roland-Garros. Donc, Carlos Alcaraz, pour moi, est de cette trempe là avec ce qu'il démontre en ce moment.
Dans les autres, Nico, voulais-tu ajouter quelque chose sur Alcaraz?
Ben, peut-être rapidement, je pense aussi, il y a une transition qui s'est faite avec lui, avec Alcaraz. Je pense qu'il est de plus en plus conscient qu'il est extrêmement talentueux. Il a cet aplomb, cette confiance-là, la petite camisole, le poing en l'air, rien ne l'ébranle. Je pense qu'il est conscient d'à quel point il est rendu maintenant un des grands joueurs sur le circuit. Et tu sais, les Espagnols ont toujours, puis ça, c'est dans tous les sports, un petit peu ce côté, pas cocky, mais très, très confiant, très agressif. Tu sais, c'est le taureau espagnol, il n'y a pas juste Nadal qui l'a. Alcaraz a ce feu-là dans les yeux. On sait son idole, c'est Federer beaucoup plus que Nadal. Il l'a déjà dit, sa plus grande inspiration, c'est Federer. Je pense qu'il a un petit peu plus de chien que Federer, plus proche de Nadal dans cet aspect-là. Mais là, il est conscient là, qu'il a les moyens de faire de grandes choses sur le circuit.
Ouais, c'est... Personne ne va tomber en bas de sa chaise si ce gars-là gagne les grands chelems et s'assoit sur la première position mondiale. Comme je l'ai dit, on ne fera pas le tour de tous les tournois comme on le fait de façon assez traditionnelle. Je veux quand même mentionner que chez les juniors, le duo Kayla Cross et Victoria Mboko ont encore fait des scènes, ont remporté un titre chez les juniors. Et je veux mentionner également Rebecca Marino qui a atteint la finale d'un tournoi à 25 000 $. C'était elle contre Frouv. Je vais finir par prononcer son nom comme il faut. À chaque fois que je le prononce, je ne suis pas capable. Linda Frouvirtova. Et elle, on en a déjà parlé au podcast. Elle et sa sœur, ce sont deux... espoirs du tennis pour lesquels on attend beaucoup de choses. Et bien justement, la semaine prochaine, on va parler à Isa Juno qui l'a vu en action, Frouvirtova, et pourra nous en parler un peu plus de ce duo de sœurs-là parce qu'il travaille avec Rebecca Marino ces temps-ci. Alors, on va le recevoir, on va venir nous en parler.
Alex, un petit point juste pour Mboko. On voit déjà dans la filière de développement canadienne potentiellement la prochaine grande star qui va percer. Donc, regardez Mboko. Elle enchaîne aussi, elle, semaine après semaine, les bonnes performances. Donc, il se passe quelque chose de ce côté-là.
Oui, il faudrait peut-être pas se surprendre de peut-être la voir, elle, à Granby, peut-être qualification.
Sûrement, absolument. Elle va être là. Oui.
Bon, voilà. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on reçoit la mairesse de Granby, Madame Julie Bourdon. Alors, au podcast Sur la ligne, on est encore une fois privilégié puisqu'on reçoit une invitée de marque. Et cette semaine, ben, c'est la mairesse de Granby, Mme Julie Bourdon. Mme Bourdon, merci infiniment de vous joindre à nous.
Ben, merci à vous de l'invitation.
Ben, c'était tout à propos parce qu'il y a quand même eu une grosse nouvelle cette semaine et vraiment, j'insiste sur le fait grosse nouvelle parce que c'est pas juste pour la ville de Granby, mais pour le Québec tout entier. Qu'est-ce que ça représente là, rapidement de cette nouvelle-là pour la mairesse, mais également pour la ville de Granby?
Bien, écoutez, bien évidemment, c'est un événement d'envergure internationale, donc on est très contents de recevoir le WTA ici à Granby en remplacement du Challenger féminin. Donc, ça va permettre vraiment de rayonner encore plus, de donner une vitrine supplémentaire à Granby. On le sait, lorsque le WTA est diffusé, il y a plusieurs millions de personnes qui sont à l'écoute. Donc, c'est vraiment une belle visibilité. Ça va nous faire plaisir d'accueillir ces athlètes féminines-là chez nous.
J'ai l'impression que c'est un peu une récompense aussi pour le succès au fil des années du Challenger. Comment vous percevez ça au niveau de l'organisation et tous les gens qui sont impliqués depuis plusieurs décennies, en fait?
Effectivement. Écoutez, on a des bénévoles en or ici à Granby qui s'occupent de maintenir le Challenger à flot, qui sont impliqués depuis plusieurs années. Je pense à M. Fauché, entre autres, qui est là depuis le début. Monsieur Lapierre, bon, qui est rendu à un autre niveau, mais qui connaît très bien aussi le Challenger, qui est un grand bien d'origine. Donc, vraiment, c'est vraiment, il y a une organisation qui s'est mise en place avec un professionnalisme malgré l'ensemble des bénévoles qui en font partie. C'est assez phénoménal. Les grands biens ont adopté le Challenger, ont adopté le tennis et je pense qu'ils vont bien adopter le WTA. Les athlètes, quand ils viennent ici, se sentent très bien accueillis. Ils aiment Granby, ils aiment aussi la proximité, ils aiment le fait que les gens viennent les voir aussi. Donc, c'est le fun aussi, lorsqu'on est un athlète, d'avoir du public qui nous regarde. Et les grands biens se font vraiment un plaisir de se déplacer, d'y aller. Et ce qu'on espère, c'est qu'on aura des gens de partout au Québec qui vont venir voir le WTA, qui est un tournoi majeur, comme j'ai mentionné tout à l'heure.
Oui, vous résumez bien la situation, parce que c'est vraiment ça qui a été la grande force de ce tournoi-là dans les dernières années, ben, en fait, depuis le début. Là, c'est la proximité avec les partisans. Et je l'ai toujours dit, c'est voir du tennis, c'est des athlètes de haut niveau à quelques mètres près. Et ça, c'est le côté sport. Mais qu'est-ce que ça représente pour la ville de Granby en termes de rayonnement? Vous l'avez dit, c'est un événement international, mais qu'est-ce que ça représente pour la ville de Granby en termes de rayonnement pour la ville?
Oui, bien, en fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment un rayonnement autant médiatique que d'avoir ces gens-là. Dans le fond, ça va attirer des gens qui vont venir voir ces athlètes-là féminines. Donc, c'est vraiment une belle vitrine pour Granby, comme j'ai mentionné. Puis, tu sais, dans le fond, on ne se le cachera pas, on va être les seuls au Québec à recevoir le WTA, donc on va devenir possiblement l'événement majeur après la Coupe Rogers et tout ça. Donc, pour les fans du tennis, ben ça va nous faire plaisir de les accueillir. On accueille déjà pas loin de 2 millions de personnes, de touristes d'habitude, lorsqu'il n'y a pas de pandémie. Donc, on est capable d'en accueillir beaucoup plus et ça va nous faire vraiment plaisir. On a tellement une belle ville. On va essayer de les maintenir aussi, ces gens-là, lorsqu'ils viennent. On a des bons restaurants, on a une super piste club aussi avec l'Estriade que les gens pourront venir essayer. Donc, je pense que comme j'ai mentionné, c'est vraiment un beau rayonnement pour la ville. Puis nous, ça va nous faire plaisir de faire la promotion aussi de ça parce que c'est important avec notre corporation de développement commercial et touristique ici. Puis travailler, on travaille déjà très bien avec le Challenger au niveau de l'organisation et tout. Donc, on va venir vraiment les appuyer puis s'assurer que la Granby rayonne dans tout ça. Puis si on est capable de continuer à attirer des touristes par la suite, ça va nous faire plaisir.
Quelle est l'importance du tennis pour la région? Vous rayonnez sur toute la MRC et même plus. Là, vous avez un tennis intérieur aussi à Granby. Donc, je voulais savoir un peu au niveau du rayonnement régional pour le tennis et au niveau des infrastructures, est-ce que ça a un impact, le fait que le WTA 250 arrive à Granby?
Bien, c'est certain. Est-ce que ça va amener des jeunes à faire encore plus de tennis, etc.? On a déjà, pour l'été au tennis de Saint-Luc, là, c'est pas loin d'environ un 700-800 adeptes qui viennent au tennis Saint-Luc l'été, des jeunes, des moins jeunes. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est offrir à la population, aux gens, de continuer d'aller dans cette direction-là. On est en train de faire une politique sportive aussi pour s'assurer d'avoir du sport accessible. Dans les dernières années, on a rendu à l'occasion de tennis Saint-Luc gratuit. Hein. Des fois, c'est souvent une question de coût pour participer à un sport. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment rendre le tout accessible, qu'on aille encore plus de jeunes qui s'intéressent au tennis. On a une école secondaire aussi qui a des jeunes qui pratiquent le tennis. Donc, bien entendu, ça, c'est important. Et c'est toujours inspirant. Là, on va avoir des femmes, comment je pourrais dire, qui sont d'un autre calibre. Donc, peut-être que ça va inciter des jeunes filles d'aller un petit peu plus dans ce sens-là. On sait que par le passé, on a eu aussi beaucoup d'athlètes qui sont passés déjà par la Challenger, qui sont devenus des athlètes de haut niveau. Là, on va les avoir, ceux de haut niveau. Donc, j'imagine que ça va inspirer beaucoup de jeunes. Puis, dans un principe, bien entendu, d'accessibilité, de rendre le sport accessible, on va s'assurer d'avoir la réponse. Puis, on a déjà mis de l'argent dans les dernières années, beaucoup sur le terrain, où est-ce que le Challenger et le WTA, ce qu'on appelle le championnat Banque nationale de Granby maintenant. Et on a déjà mis beaucoup d'argent. On va continuer à voir quel investissement on devra faire ou pas. Mais pour accueillir les gens, pour accueillir les athlètes, c'est certain qu'on va tenter de s'ajuster. Cela va permettre aussi aux grands biens, aux jeunes de continuer à pratiquer le sport.
Madame Bourdon, on sait que la politique municipale est le palier du gouvernement où vous êtes le plus proche de vos concitoyens. Et là, la nouvelle est tombée depuis quelques jours maintenant. Quelle a été la réaction, les échos de vos concitoyens suite à cette belle annonce-là?
Écoutez, les gens étaient tellement fiers. On a tellement... Tu sais, les grands biens, pour eux, le Challenger, c'est un de leurs événements chouchou. Donc, de voir arriver à un autre niveau, ils étaient tellement contents. Je peux pas vous dire, on a eu des commentaires positifs qui n'arrêtaient plus. Donc, je pense que tout le monde se l'approprie puis c'est parfait parce que c'est ça qu'on souhaite. Comme j'ai mentionné, on a beaucoup de bénévoles aussi qui sont impliqués dans le Challenger. Donc, je pense que ça va aussi aider à maintenir à flot le nombre de bénévoles, d'amener des gens à s'impliquer bénévolement dans ce tournoi-là. Puis, c'est vraiment une fierté pour les grands biens et les grands biennes, là.
Je tiens à mentionner les nouvelles dates parce que c'est vraiment intéressant. Vous allez vous situer juste avant l'US Open. Donc, souvent, il y a des joueuses qui vont vouloir parfaire leur préparation à ce moment-là. Ça va être du 20 au 28 août. Donc, c'est une très belle fenêtre, là, je pense, aussi pour amener les meilleures joueuses à Granby. Parlez-nous un peu. Êtes-vous fan de tennis? Et si vous avez des joueurs ou joueuses préférées, parlez-nous un peu de votre relation avec le tennis.
Oui, écoutez, moi, ça fait des années que je vais au Challenger, que j'apprécie le tennis, c'est tellement un beau sport. Et je pense, dans les dernières années, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a des joueurs qui sont maintenant rendus dans les top mondiaux, qui sont passés par Granby, puis qui sont aussi des Québécois. Je pense à Félix Auger-Aliassime, qui est passé par Granby, qui est rendu, je pense, top 9, là, moi je me trompe, là. Donc, environ, tu sais, c'est aussi une fierté pour les grands biens de dire, mon Dieu, tu sais, il est déjà passé par chez nous, je l'ai vu il y a quelques années, il est rendu là, c'est intéressant. On a aussi Leila Fernandez qui est passée par Granby aussi, donc elle est rendue maintenant 19e au top mondial. Donc, tu sais, on a une belle fierté, c'est des joueurs québécois qu'on suit aussi à Granby, qu'on apprécie suivre. Et comme je vous dis, c'est... Le challenger, le sport du tennis, c'est un sport un peu chouchou des grands biens, si je peux me permettre. Donc, c'est un sport qui permet qu'on suit réellement les athlètes durant un certain temps. Denis Shapovalov est aussi passé il y a quelques années. Donc, on a eu tellement des beaux athlètes et là, qu'on suit, qu'on aime. Moi, comme je vous dis, je suis le challenger du tennis depuis quelques années. Je joue plus ou moins au tennis avec les enfants sur les courts je suis pas joueuse professionnelle, je m'amuse plus avec les enfants, mais c'est réellement un beau sport que j'aime beaucoup.
Ben, c'est pas compliqué. En fait, la plupart des joueurs que vous voyez évoluer sur le circuit professionnel ont à peu près tous passé par Granby d'une manière ou d'une autre. Et c'était un tournoi qui servait de tremplin pour ces joueurs-là. C'était ça l'idée. Et ça a toujours été aussi l'idée de progresser en même temps que les joueurs. Et la suite logique que ça devienne un tournoi de niveau WTA aujourd'hui est tout à fait dans l'ordre des choses. D'ailleurs, je pense que Eugène Lapierre, à chaque année, se faisait poser la question, est-ce qu'il va avoir des plus grandes bourses? Est-ce que le tournoi va changer de niveau? Et puis là, ben on atteint finalement le niveau WTA. Madame Bourdon, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire pour combien de temps cette entente-là, elle est faite et quelle est la vision des choses pour la suite avec Tennis Canada, par exemple?
Ben écoutez, on collabore avec Tennis Canada au niveau du tournoi, puis le nombre d'années, tu sais, ça, je peux pas m'avancer pour eux, là, parce qu'on s'entend que c'est vraiment tributaire de Tennis Canada. Nous, on les accueille, puis ça nous fait vraiment plaisir de les recevoir ici. Puis on va travailler pour être en mesure qu'ils restent à Granby aussi. Vous parliez des bourses tout à l'heure. On se rappellera, il y a quelques années à Granby, il n'y a pas si longtemps, là, on parle d'à peu près 5-6 ans, les bourses au niveau féminin et masculin n'étaient pas égales. Et là, on est venu mettre, il y a quelques années, des bourses égales de 80 000 d'un challenger. Et là, en plus, avec le WTA, on arrive avec des bourses de 240 000. Donc, on tombe vraiment à un autre niveau. Si Tennis Canada souhaite poursuivre à Granby, nous, ça va nous faire plaisir de les accueillir. On nous dit aussi que les terrains fonctionnent pour l'instant, qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est certain que nous, on va être prêts à les accueillir jusqu'à temps qu'ils souhaitent demeurer à Granby, là.
Ouais, ce qu'il faut comprendre, par contre, au niveau des bourses, c'est que même si, bon, tant mieux si c'est égal, mais c'était pas des tournois de même niveau à ce moment-là. Là. C'était un peu ça la nuance, là, pour pas tomber dans une certaine
controverse. Effectivement, non, tout à fait.
C'était juste que c'était pas des tournois, c'est ça, de même niveau. Ben, en tout cas, nous, on trouve que c'est une excellente nouvelle. Moi, j'ai bien hâte de retourner à Granby cet été et de voir justement ces joueurs de calibre international-là évoluer sous nos yeux. Je m'attends à ce qu'il y ait quelques gros nom, là, et je pense que vous allez être surpris. Ben, en tout cas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous allez être surpris de la réponse parce qu'il va y avoir plus de monde que vous pensez. Je pense que vous allez être à guichet fermé, d'après moi, pour pas mal toute la semaine. C'est ma prédiction. Alors, vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche, mais ça va être...
Je l'espère fortement qu'on soit à guichet fermé. Puis, effectivement, je pense aussi qu'on risque d'avoir des gros noms, comme vous l'avez mentionné, dans l'échéancier de temps, là, où ce qu'on se situe. On risque d'avoir possiblement des joueuses dans le top 20 qui passent par Granby. Puis, effectivement, ça va attirer des gens sans contredit, là.
Ben, Madame Bourdon, merci infiniment pour votre participation. Merci aussi d'avoir contribué à faire avancer ce projet-là, qui est un projet vraiment structurant pour le monde du tennis au Québec, ça c'est certain. Et puis, si vous le voulez bien, on se reparlera peut-être un peu plus proche du tournoi et on parlera peut-être un peu plus de tennis. Ça nous fera plaisir de vous réinviter si vous le souhaitez.
Merci beaucoup, au plaisir.
Bye merci bye. Beaucoup, bye bye. Au plaisir. Bye bye.
Merci une fois de plus à la mairesse de Granby. Au retour de la pause, messieurs, on continue de parler des championnats Banque nationale, cette fois avec le directeur de l'événement, M. Richard Quirillon. On continue notre épisode spécial sur le Challenger de Granby, qui est maintenant aussi un tournoi WTA du côté des femmes, je le rappelle. Et bien, pour l'occasion, on reçoit le nouveau directeur de ce tournoi WTA, Richard Quirillon. Richard, dans un premier temps, bon, toi et moi, ça fait quand même un bon bout qu'on se connaît, qu'on se côtoie dans les tournois. Je veux te dire félicitations pour ce nouveau poste-là. Je pense que c'est plus que mérité et je pense que ça va être un beau défi pour toi.
Merci Alexandre. Ouais, c'est vraiment tout un défi de pouvoir diriger un tournoi du circuit professionnel. C'est un honneur, c'est le fun. Je suis vraiment excité. Là. C'est vrai que ça fait longtemps que je baigne là-dedans et que j'ai probablement eu des tâches très similaires à ce que je vais avoir déjà cet été. Donc, mais c'est quand même bien motivant et excitant. Là.
avant qu'on rentre dans les spécificités du tournoi comme tel, est-ce que tu es en mesure de nous dire à quel point c'est une immense nouvelle pour la ville de Granby et puis pour le Canada aussi? C'est pas banal de ramener un tournoi de niveau WTA. Là. Il y a une poignée de villes dans le monde qui ont un tournoi de ce calibre-là.
Oui, c'est vraiment une super nouvelle. T'sais. Écoute, on souhaite organiser plein de tournois en salle québécois, en salle canadien. On sait à quel point que c'est bon pour nos athlètes. On l'a vu au cours des dernières années, à quel point soit qu'on a mis des joueurs sur la map ou soit qu'on a vraiment aidé certains joueurs à aller chercher des points super importants pour relancer leur carrière ou débuter leur carrière. Fait que le fait d'avoir un tournoi aussi élevé que ça, un autre tournoi du circuit professionnel en plus de l'Omnium Banque nationale, donc les championnats Banque nationale de Granby, donc c'est plus maintenant appelé le Challenger Banque nationale, ça va être, je pense que ça va être excellent. Puis surtout du fait qu'on a un groupe de jeunes joueuses qui poussent, là, tu sais, puis qui sont qui ont très faim pour avoir des points, puis qui performent extrêmement bien sur la scène internationale junior. Donc ce tournoi-là arrive à point aussi pour leur permettre de faire une belle transition vers le circuit professionnel. Bon, certaines de ces joueuses-là vont devoir faire encore peut-être leur classe parmi les tournois Challenger qu'on a encore partout au Canada pendant peut-être un an ou deux, mais ce tournoi-là va être extrêmement important pour elles dans le but de continuer à se développer à ce moment-là.
Eugène en a parlé un petit peu dans la conférence de presse officielle, mais est-ce que tu peux nous amener un peu dans les coulisses de comment ça s'est passé de ramener un tournoi WTA au Canada? Parce que, bon, il y avait celui de Québec pendant un certain moment. Ce tournoi-là a quitté. Et puis, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'on ramène un tournoi WTA. Peux-tu nous amener un peu dans les coulisses de comment ça s'est passé? Peut-être les discussions avec la WTA.
Ouais, ben ça date depuis 2018. C'était la dernière année où, qu'on tenait ce tournoi-là à Québec, la Coupe Banque Nationale, qui était un super tournoi organisé avec un comité organisateur avec beaucoup d'expérience. Ça roulait depuis longtemps. Et puis, on le faisait au PEPS après l'US Open. Et puis, c'était de plus en plus difficile vraiment à atteindre nos objectifs avec ce tournoi-là, du fait que la majorité des joueuses décidait de partir en Asie tout de suite après le US Open. Donc c'est sûr que pour nous, ça avait été quand même assez compliqué de maximiser tous nos investissements dans ce tournoi-là. Donc la décision avait été à ce moment-là de voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui serait intéressé à le prendre, ce tournoi-là. Puis bon, on avait trouvé un promoteur aux États-Unis, à Albany, là, qui est intéressé à le tenir. Et puis, la pandémie a fait en sorte qu'il n'a pas été capable de le tenir du tout, ce tournoi-là. Et puis, il nous a contactés, puis il nous a dit, écoutez, si vous le voulez, on pourrait déchirer le contrat, puis je vous le redonne. Il n'était pas capable de s'entendre avec le site où il devait tenir le tournoi. Donc, c'est ça. Eugène et l'équipe de la haute direction en ont jasé beaucoup, à savoir, si on reprend le tournoi, qu'est-ce qu'on fait avec et tout. Et ils sont venus à la conclusion très rapide que le tournoi, le site de Granby, en été, avant l'US Open, était fort probablement un endroit idéal, parce que ce qu'on voulait, c'est le tenir dans un endroit où déjà le site était adéquat pour ce genre de tournoi-là, puis qu'il y avait un comité local sur place, et puis qu'on pouvait pas devoir partir à zéro avec le tournoi. Fait que, évidemment, on est suivi des conversations avec la WTA là, pour voir si est-ce que le site de Granby serait un site approuvé, puis est-ce que ça fonctionnerait bien dans le calendrier, puis à ce moment-là, au niveau du placement du tournoi géographiquement et tout ça, puis c'était unanime, même à la WTA, le grand patron connaissait déjà la ville de Granby de par sa renommée au sein du circuit Challenger Tour, donc c'était quand même rassurant de savoir ça, et ça n'a pas été long qu'on ait l'approbation là, pour pouvoir tenir le tournoi à Granby. Quelques jours après, quelques conversations. C'est sûr que j'aime le jaser beaucoup avec la gang de la WTA, mais c'était. Donc, ça a été assez rapide. Là,
Moi, ça a toujours été un de mes tournois bon, préférés d'une part par la proximité, puis effectivement, c'est tellement un tournoi qui est magnifiquement organisé, là, puis je dis pas ça pour vous flatter dans le dos, là, c'est vraiment c'est un méchant beau tournoi, ça l'a toujours été. Mais est-ce que la grosseur du marché, d'une certaine manière, aurait pu être un enjeu? Parce que quand on regarde les autres villes WTA, je pense que, si je ne me trompe pas, ce sont des villes pas mal plus grosses que Granby. On peut penser à Melbourne, à Lyon, à Strasbourg, Cologne. C'est des villes qui, en termes de population, et même, j'oserais dire, de prestige, sont un peu plus gros que dans certains cas, pas mal plus gros que Granby. Est-ce que ça a été un enjeu, ça?
Non, pas vraiment. Premièrement, le marché de Granby, puis surtout la ville de Granby, c'est une ville de tennis. Le tournoi fonctionne depuis plus de 25 ans. Là. D'ailleurs, on va célébrer là, bientôt un anniversaire bien important. Là. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est même pas une renommée à faire. On n'a pas besoin de vendre ou de promouvoir le tournoi plus qu'il faut. Le tournoi est déjà bien connu parmi les citoyens. Puis Granby est bien positionné quand même assez central. T'sais, on est à moins d'une heure de Montréal, on est à une demi-heure de Sherbrooke, 40 minutes de Sherbrooke, près de Beaumont. Donc, tu sais, il y a quand même, on peut aller chercher quand même plusieurs personnes dans ce marché-là. Et puis, ben, tu sais, le tournoi, ben, ça fait des années que ça roule. On le voit à quel point qu'on remplit les estrades presque à tous les soirs, du moins du milieu de la semaine jusqu'à la fin. On a près de 1000 personnes qui peut accéder au central pour voir les matchs. Et puis, ben, ça, c'est quand même, je te dirais, probablement supérieur à la moyenne des tournois de ce calibre-là sur le circuit WTA. Donc, on débute le tournoi même avec une longueur d'avance de ce côté-là. On va peut-être vouloir ajouter quelques estrades et voir si l'engouement est vraiment continu, là, puis qu'on est capable de créer une certaine demande pour pouvoir ajouter des estrades, continuer à remplir, puis ajouter encore plus d'atmosphère au central. On va continuer à le faire. Mais le marché de Granby, je pense, c'est un très, très bon marché pour ce tournoi.
Et est-ce que le site... Parce que là, vous parlez de peut-être faire des ajustements. Moi, je ne suis pas inquiet pour vous pour la vente de billets. Là. C'est toujours un succès à chaque année. Puis là, avec bon, un statut WTA, ça ne devrait pas nuire. Mais est-ce qu'il y aura des ajustements à faire justement parce qu'on pense que ça peut être encore plus gros que ce que c'était dans les dernières années en termes d'accueil des spectateurs?
Ouais, ben ça, on va le voir, c'est sûr, avec la vente de billets, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là. Tu sais, nous, on a des ajustements à faire pour tenir le tournoi même statu quo. Là. C'est-à-dire, si on savait qu'on avait à peu près le même nombre de spectateurs qu'en 2019, par exemple, on a quand même des ajustements à faire. Premièrement, pour le circuit WTA, on doit loger les joueurs, on doit loger les joueurs. C'était pas le cas en 2019 où on devait seulement loger le tournoi masculin contractuellement avec l'ATP, mais l'ITF, c'était pas requis à ce moment-là. Fait qu'on leur offrait des familles d'accueil et tout. Donc, côté transport, c'était un peu plus simple. Là, maintenant, faut loger les femmes, faut loger leur entraîneur. Donc, ils voyagent avec un entourage supplémentaire, ces athlètes-là. Et puis, ben, faut loger les joueurs aussi. Et puis, en plus de tout ça, ben, faut accueillir une équipe de production de télé qui va être, qui n'aura rien à voir avec la production d'Internet qu'on faisait avant à Granby, où il y avait une petite équipe qui venait installer quelques petites caméras. Là, on parle d'une vraie grosse production télé internationale avec une production à 5 caméras sur le central à partir des quarts de finale. Donc on doit créer aussi un petit, on appelle ça un compound télé là, pour pouvoir accueillir toute cette gang-là. Donc c'est sûr qu'au niveau des participants, les intervenants là, pour l'organisation du tournoi, là, ça va être beaucoup plus nombreux. Fait qu'on a vraiment des changements à apporter de ce côté-là pour pouvoir accommoder tout le monde. Donc, avoir un site qui prend peut-être un peu plus d'expansion, trouver des locaux, trouver des installations même temporaires pour pouvoir loger des gens parce qu'on est un peu limité aussi avec ce qu'on peut offrir. Maintenant qu'on est après le... au début du retour des classes, on a plus accès vraiment à l'école qui était... très, très utile dans le passé pour pouvoir loger certains comités. Donc, il faut un peu repenser à comment on va s'installer puis le faire de façon intelligente pour que ça fonctionne bien à même les fonctionnalités du tournoi, là, c'est-à-dire regrouper les services aux joueurs à un endroit, bien loger les deux circuits pour qu'ils puissent pouvoir bien exécuter leurs tâches, là, puis parler à leurs joueuses, à leurs officiels et tout ça. Donc, on doit peut-être revoir pas mal notre plan de site. Mais par contre, il n'y a rien de possible là-dedans. On va pouvoir. Ça fait du bien aussi de pouvoir repartir un peu à neuf, tu sais, puis de. Et puis ben revoir un peu le site puis repenser un peu la façon qu'on faisait les choses, fait que juste pour dans le but d'améliorer tout ça là, t'sais, fait que on a des petits défis sur la table, mais rien n'est possible.
En même temps, c'est ça que j'allais dire, les ajustements, je pense pas qu'ils soient si grands que ça à faire, en tout cas a priori, là, puis je suis pas dans le secret des dieux, puis je suis certainement pas dans l'organisation avec vous, là, fait qu'il y a peut-être beaucoup de nuances que je vois pas, mais dans le passé, TVA Sport avait diffusé ce tournoi-là de façon professionnelle à jour. Là. Alors, est-ce que il y a déjà cette expérience-là? Est-ce que ça va demander, en tout cas pour la télévision, beaucoup plus d'ajustements que ce qu'un réseau comme TVA Sport faisait? Parce que j'imagine que le World Feed et TVA Sport devaient avoir à peu près le même équipement, j'imagine. Là.
Ouais, ben d'ailleurs, on leur parle cette semaine pour vraiment connaître 100% là, de leurs besoins. Donc, je vais pouvoir probablement en savoir plus. Ce qu'on sait déjà, c'est que, premièrement, ils couvrent toute la semaine. Hein. Avec TVA, on avait quart de finale, demi-finale, finale, ce qui était déjà super bien. Puis le reste des matchs était streamé, donc en direct sur le web pour les hommes, même pour l'ITF. Je pense à la dernière année, on le faisait. Et là, maintenant, ben, on va avoir une production télévisuelle du début jusqu'à la fin du tournoi, en plus d'une production Internet pour les matchs masculins. Et là, donc c'est sûr que c'est un peu différent. Et puis les requis de la télé internationale sont probablement comparables à ce que la production de TVA était là, pour les matchs de quart de finale, demi-finale, donc avec les caméras. Je pense que, écoute, à ma souvenance, il y avait peut-être 3 caméras au niveau de TVA. Et là, on monte à 3 pour les débuts des matchs, les premières rondes, et puis 5 caméras à partir des quarts de finale. Donc c'est une production qui est à la limite un petit peu en dessous de ce qu'on a à l'Omnium Bank National, mais quand même très similaire. Fait qu'on passe vraiment à l'autre niveau de ce côté-là.
Et justement, vous l'avez dit, vous avez déjà comme l'expérience avec l'Omnium Banque Nationale, et ça va être à peu près le même, de ce que j'en ai compris, peut-être pas le même staff, mais la même logistique au niveau de la télévision, c'est-à-dire que c'est de calibre international.
Oui, exactement. Écoute, un tournoi de ce calibre-là, c'est produit et rediffusé dans 98 pays. Il y a à peu près 2,3 millions de personnes qui écoutent un match en direct d'un match du circuit WTA 250. Donc vraiment, le fait maintenant de pouvoir compter puis d'embarquer dans le pool de WTA Media puis de pouvoir bénéficier de leur expertise pour qu'ils viennent sur le site, s'installer et tout ça, pour nous, c'est extrêmement gratifiant. Puis ça va être super bon pour la ville de Granby aussi de pouvoir avoir cette visibilité-là internationale, et puis même, bon, au niveau national aussi, bien sûr. Là. Fait que vraiment, c'est un point, c'est vraiment super bon. Puis pour les athlètes, c'est encore mieux parce que là, bon, ils se font voir partout dans leur propre pays aussi et tout. Donc c'est vraiment génial. Puis sans la télévision, c'est sûr que ça donne pas le même cachet aussi au niveau du spectacle. Puis grâce à la télévision aussi, ben pour nous, ça nous pousse aussi à vouloir présenter un court central, par exemple, qui va être revampé, tu sais, qui va être amélioré. Tu sais, on va vouloir vraiment bien paraître, tu sais, de façon super professionnelle à la télévision. Donc, ça nous force aussi à revoir un peu comment on s'installe, tu sais.
Je sais que tu es beaucoup impliqué pendant l'Omnium Banque Nationale aussi. Je doute que ça va être le cas encore cette année. Là, ça veut dire que tu vas avoir un bon 2 mois là, assez intense en prévision de l'Omnium Banque Nationale. Puis après l'Omnium Banque Nationale, il n'y aura pas de congé. Là. Ça va être en mode Granby, j'ai l'impression, pour toi. Est-ce que je me trompe?
Ouais, ben c'est ça fait quand même pas mal longtemps que je fais ça, puis l'été pour moi c'est du tennis, hein. Écoute, c'est depuis avant je commençais même plus tôt, tu sais, avant la pandémie on commençait début juillet avec des tournois à Gatineau, après ça à Granby, après ça l'Omnium Banque Nationale, on s'en va à Repentigny, après ça on fait des tournois au stade, après ça on s'en va au Saguenay, tu sais, fait que Fait que pour moi, la période de juillet à octobre, je la consacre évidemment à ça. Puis c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime, puis c'est tellement le fun. Fait qu'en effet, je peux pas te cacher que c'est probablement que ça va être mon mois d'août le plus occupé que j'aurais jamais eu, parce que là, vraiment, tenir deux tournois du circuit, puis surtout le fait que ça soit la première année. Tu sais, quand ça fait plusieurs années que tu fais un tournoi, des fois, il y a certains automatismes, il y a certains copy and paste de l'année précédente, mettons, mais c'est définitivement pas le cas à Granby cette année. Puis c'est jamais le cas avec l'Omnium Banque Nationale non plus de notre côté. On veut toujours essayer de se réinventer puis de trouver des façons de s'améliorer, utiliser des nouvelles technologies. Donc c'est jamais simple. Mais de notre côté, ça nous tient aussi vraiment sur nos orteils là, pour vraiment être toujours en train d'offrir ce qui se fait de mieux. Écoute, on a une semaine dans l'année, maintenant deux avec Granby, pour offrir à nos spectateurs puis à nos joueurs des installations puis un show là, de haute qualité. Là, fait qu'on donne tout ce qu'on a.
Parlons de certaines spécificités du tournoi à venir, Richard. Premièrement, peux-tu confirmer que la bourse va être autour des 239 000 $, 240 000 $, là, si on arrondit, là, qui est à peu près le montant standard pour les WTA 250?
Oui, ça a été confirmé justement, ça fait pas longtemps. Là. Donc, on parle de 239 477 $ US, donc en bourse totale pour le tournoi, puis 79 000 et des poussières, donc 80 000 environ là, pour le tournoi masculin. Donc, on conserve la même bourse qu'on avait avant. Et puis, la bourse de la WTA, évidemment, va avec le niveau. Là, donc, c'est hautement plus relevé cette année de ce côté-là.
Et à quoi on peut s'attendre pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins ça comme type de joueuses qui vont venir à ce tournoi-là? Bon, évidemment, il est placé assez tard dans la saison sur dur, c'est-à-dire juste un petit peu avant le US Open, peut-être même pendant les qualifs du US Open. Mais quand on regarde des champions là, qui ont joué ces tournois-là depuis le début de la saison, tu as quand même des Simona Halep et des Madison Keys qui ont gagné ces tournois-là au niveau 250. Est-ce que c'est le genre de joueuses qu'on pourrait peut-être espérer voir?
Ça va être, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est un été qui est très, très chargé. Et puis, là, on s'en vient en Amérique du Nord, les joueuses vont vouloir jouer des matchs, et puis dépendamment pas mal de comment ils vont faire en début d'été, va probablement dicter un peu s'ils vont décider d'opter pour faire le tournoi de Granby ou prendre une semaine de repos si justement ils ont eu énormément de matchs. On risque d'avoir des belles surprises, parce que si jamais ça arrivait que justement une joueuse dit moi j'ai perdu toute la semaine d'avant, c'est pas vrai que je vais attendre une semaine et demie avant de rejouer des matchs, là c'est sûr qu'ils vont vouloir venir à Granby. C'est facile, on est à 1h15 d'avion de New York, donc c'est super facile de venir au Canada pour venir jouer quelques matchs puis espérer gagner. Le fait qu'on finisse aussi le samedi au lieu du dimanche, ça permet à tous les joueuses de pouvoir avoir un horaire qui est tout à fait convenable là, pour faire les deux tournois. Donc, tout ça, c'est arrangé, évidemment, avec la WTA pour permettre aux joueuses de participer au tournoi de Granby sans déranger leur horaire pour New York. Donc, je pense qu'il faut prévoir quelques bonnes joueuses. Écoute, on regardait un peu là, ce qui se faisait l'an passé avec le tournoi de Chicago, qui était notre sanction qu'on a gentiment prêtée à l'organisation là-bas pour tenir le tournoi. Et puis, ils ont quand même eu 8 joueuses du top 50 mondial, puis Elena Svitolina qui a remporté le tournoi, donc une joueuse du top 10 mondial. On pourrait aussi s'attendre à avoir peut-être de ce genre de calibre-là cette année à Granby.
Oui, exact. Et du côté des hommes, parce que là, on a parlé de WTA, là, et puis c'est bien correct parce que c'est la grosse nouvelle, mais du côté des hommes, il va y aussi avoir un tournoi. Quel type de joueur on peut s'attendre, là, parce que ça fait quand même 2 ans, peut-être que certaines personnes qui ont oublié, quel genre de joueur on pourra retrouver dans ce tournoi-là?
C'est un tournoi, écoute, le tournoi 80 000... A aussi énormément de bons joueurs. On a eu souvent des top 100 mondial, top 80 mondial. On a vu Vacek Pospisil le jouer souvent. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir que nos joueurs canadiens le jouent. On a des joueurs aussi de la relève qui sont en vue, puis on les connaît peut-être un peu moins, mais on parle de Gabriel Diallo, peut-être plusieurs autres bons joueurs qui évoluent sur le circuit américain en ce moment. Liam Draxel, par exemple, qui est aussi un autre super joueur. Alexis Gallarno, qui se lance au circuit professionnel aussi. Donc, on va vraiment vouloir que ces joueurs-là bénéficient de, du tournoi de Granby, puis essayent d'aller chercher des bons points parce que on fait ça pour eux, premièrement, mais aussi, je pense, sur la scène internationale. C'est un tournoi qui est bien apprécié. T'sais, maintenant que les gens connaissent le nom de Granby, puis ils s'inscrivent, parce qu'ils savent à quoi s'attendre, puis ils savent qu'ils vont être bien traités, puis que ça va être de super bonnes conditions de jeu aussi, puis que l'atmosphère est bonne. Donc, tout ça fait en sorte que le calibre de jeu aussi qu'on reçoit ben, est rehaussé à cause de ça. Là.
Ce que je veux dire aux gens, c'est que je pense que ça va être tout un événement cet été. Je ne vais pas vous mettre de pression, plus qu'il faut, mais je sais à quel point vous faites bien les choses. Puis moi, ça, c'est un tournoi que je suis allé à chaque année depuis... au moins 2011, facilement, que je suis allé à chaque année. C'est un tournoi de niveau extraordinaire. Ça va l'être encore plus cette année. Moi, je suis bien excité de cette nouvelle-là. Vraiment, là, c'est pas le journaliste qui parle, c'est vraiment plus le fan de tennis. Et puis, ben, je vais vous souhaiter la meilleure des chances dans cette aventure-là. Il y a beaucoup de pain sur la planche, mais c'est toute une nouvelle et c'est une méchante belle nouvelle pour le tennis canadien de ramener un tournoi à WTA. Là, j'insiste, là, c'est vraiment, c'est spectaculaire ce que vous avez réussi à faire. Et puis, ben écoute, Richard, je ne vais pas te mettre sur le spot, mais est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent pour d'autres tournois, peut-être de type Challenger? Est-ce qu'on va réannoncer d'autres tournois prochainement?
Bien, je travaille avec tous les comités organisateurs là, pour qu'on puisse bientôt annoncer le retour des tournois. On a eu tellement de mauvaises nouvelles dans les dernières années à devoir les annuler. Là, fait que pour nous, c'est terminé l'annulation de tournois. On regarde en avant, on veut tenir nos tournois. On a des super sites, des super comités organisateurs, autant à Repentigny, à Drummondville, à Granby, partout au Canada. Tu sais, puis ces gens-là, ben, je suis en communication avec tout le monde. Puis à date, ça regarde super bien. Les gens sont bien motivés. Tu sais, on est pas mal plus à l'aise. On sait un petit peu plus qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu sais, puis un petit peu moins d'incertitude par rapport à quelles seront les mesures, qu'est-ce qu'on va pouvoir tenir. Est-ce que les joueurs vont pouvoir rentrer au pays, par exemple? Est-ce que les joueurs vont pouvoir venir? Tu sais, il va y avoir des mesures sanitaires respectées qui vont être tellement difficile à organiser que ça, c'est souvent des choses comme ça qui mettaient beaucoup de doutes dans l'esprit des organisateurs. Puis maintenant, ben, avec l'expérience qu'on a, puis avec l'expérience de la pandémie aussi, tout ce qu'on a vécu, ben, on est prêt à dire maintenant qu'on regarde en avant, puis qu'on planifie le tournoi, puis on va l'organiser comme c'était avant la pandémie. Puis évidemment, on fait tout ça avec les mesures les plus sécures là, possible. Là. On fait rien à l'aveuglette, ça c'est sûr, mais je pense qu'il faut être très confiant de pouvoir ramener tous ces tournois-là sur le calendrier. En titre de nouveau tournoi, ça va être un peu plus difficile cette année. On a été très prudent dans la première portion du calendrier. Puis avec raison, parce que c'était difficile à prévoir, parce que nous, quand on prépare notre calendrier, on se prépare quand même des mois d'avance. Là, c'est sûr qu'on commence pas à regarder le calendrier en janvier. Là, on commence à regarder ça des mois avant, puis on a vu un peu ce qui se passait au mois de septembre, octobre, quand Omicron commençait à rentrer dans le décor. Ben là, ça nous a permis de se remettre en question, à savoir, bon, on fait quoi en début d'année, tu sais, si on met des tournois, puis on doit les canceller et tout ça. Donc, c'était plutôt... C'était pour nous, c'était prévu de dire, ben regarde, on va être tranquille dans la première portion du calendrier, et puis à partir de l'été, à ce moment-là, on y va, là, tu sais, puis on organise toutes nos affaires, puis on travaille maintenant sur un calendrier pour les trois prochaines années, où là, vraiment, des tournois dans tous les quarts de l'année vont pouvoir avoir lieu. Des nouveaux tournois, ben je vais pouvoir t'en parler, Alexandre, quand ça va être confirmé. C'est sûr qu'on travaille là-dessus. Tu sais, on a beaucoup d'intérêt de plusieurs villes, de comités organisateurs, tu sais, de pouvoir tenir différents tournois de différents calibres, masculins, féminins. Donc, et ce, pas juste au Québec, partout au Canada. Le tennis est tellement populaire en ce moment que pour nous, c'est un défi aussi de savoir où est-ce qu'on va tenir nos tournois, quel calibre, à quel moment dans l'année, qui va le recevoir, versus, parce qu'il y a quand même plusieurs villes qui souhaitent en organiser. Donc, c'est un beau défi, c'est des beaux problèmes, mais c'est quelque chose qu'on regarde sérieusement, puis on le gère, on essaie de le gérer du mieux qu'on peut là, en prévision des trois prochaines années. Souvent, on se fait des plans pour regarder à long terme, voir à quoi va ressembler le calendrier dans trois ans. Où est-ce que nos coachs de la haute performance voient leurs joueurs, puis évoluer dans quel type de tournoi. Donc, il y a quand même une réflexion qui est faite. Et puis, c'est pas juste moi chez nous qui me fais un calendrier dans un fichier Excel. Là. C'est vraiment pensé avec tous les intervenants chez Tennis Canada.
Oh ben là, je sens dans ton ton rassurant des bonnes nouvelles peut-être à venir. On va rester à l'affût. Richard Quirion, directeur des championnats Banque nationale de Granby, je rappelle, qui est maintenant un tournoi WTA. C'est une nouvelle phénoménale. Merci infiniment pour ta participation une fois de plus au podcast et je peux t'assurer qu'on va faire une couverture élargie de ce tournoi-là. Il y a une bonne partie de l'équipe qui vient des cantons de l'Est et moi, comme je l'ai dit, ça a toujours été un de mes tournois préférés de par sa proximité et le calibre de jeu a toujours été phénoménal. Alors, garantir qu'on va être sur place et on va le couvrir. On va faire compétition aux grands médias internationaux. C'est là où
je vais. Je ne suis pas inquiet, Alexandre. Tu vas être le bienvenu, c'est sûr.
Richard, merci beaucoup. Je te laisse retourner à ton travail parce qu'il y a déjà beaucoup de pain sur la planche d'ici le début de l'été et pour tout ce qui s'en vient aussi. Merci infiniment et au plaisir.
Ça m'a fait plaisir. À bientôt.
Merci encore une fois à M. Richard Quirion. C'est toujours tellement un plaisir de travailler avec lui et de faire des entrevues avec lui. Toujours hyper généreux. Hugues, il nous reste à faire. Qu'est-ce qu'on doit surveiller la semaine prochaine?
Donc, le retour de Novak Djokovic à Dubaï pour sauver sa place de numéro un mondial. Il y a plusieurs cas de figure où Medvedev sera numéro un dès lundi prochain. Donc, Djokovic doit avoir une très bonne semaine parce qu'il y a plusieurs scénarios qui mettent Medvedev premier là, s'il sera jusqu'en quart de finale cette semaine à Acapulco ou s'il gagne le tournoi, évidemment. Donc, Dubaï, on va suivre avec Shapovalov. On répète, Félix fait l'impasse, un peu de repos après un début d'année très, très chargé, et on peut le comprendre. On a parlé d'un léger problème de dos quand ils ont annoncé ce matin son retrait, donc on verra ce qu'il y en est après. Et donc, Acapulco aussi à suivre avec Zverev notamment, avec Nadal, donc un très beau tournoi du côté d'Acapulco qui a donné des très grands matchs aussi depuis quelques années.
Et du côté des femmes, on va surveiller le tournoi de Doha pour lequel on a fait nos prédictions parce que je rappelle que Tennis Canada a lancé son jeu des prédictions et vous allez pouvoir faire vos prédictions à chaque semaine pour les tournois 1000 durant la saison. C'est une compétition sur l'année longue. Moi et Hugues, on a fait nos choix en direct. Vous pouvez voir la vidéo sur nos médias sociaux. Alors, on pourra pas vous mentir sur nos choix. Alors, surveille Doha également, Hugues.
Ouais, je le répète, j'ai mis une finale Sakkari, comme t'avais, et je mets cette fois-ci Sakkari gagnante, donc un beau WTA 1000 cette semaine. Et allez voir le site de Tennis Canada pour le jeu des prédictions, c'est vraiment le fun et ça nous permet de creuser un peu dans notre connaissance du tennis semaine après semaine.
Super bien fait. Moi, j'ai pensé à toi, Nicolas Richard, parce que j'ai Garbiñe Muguruza en finale.
Ah, je pensais que tu avais mis Yufeng Kui en finale.
Non.
Pas cette semaine.
Nico, tu nous as manqué la semaine passée, alors je te redonne, comme c'est la tradition, ton mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.